Jean-Pierre Rioux qui est là. Bonjour, Monsieur Rioux.
Bonjour, Monsieur Saint-Pierre.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps dans votre bureau d'écouter l'entrevue qu'on vient d'avoir avec Valérie Tremblay de
Oui, oui,
bon,
oui, oui.
Écoutez, j'ai le goût de vous demander comme ça, là, vraiment à chaud. Probablement qu'on s'aperçoit qu'à Témiscouata sur le lac, ça a franchi une étape là où il y a un risque de briser un équilibre entre l'interne et l'externe. La démission de Gilles Garon, Madame Tremblay qui quitte également, on appelle ça une démission. Il y a un risque à briser un équilibre fragile lorsque ça va un peu trop loin. Et je présume que vous autres, les maires de municipalités comparables ou à peu près comparables, vous regardez ça. Puis la dernière affaire que vous souhaitez, c'est que pareille histoire vous arrive, là.
Oui, oui, c'est que ça peut être comme un jeu de domino. Tout s'écroule. Ça prend pas de temps, vous savez. Une santé d'un être humain comme une organisation municipale ou toute organisation, M. Saint-Pierre, là, tient sur une fragilité. Tient, puis ça, on l'oublie souvent, mais ça tient par rapport à la richesse des gens qui occupent des postes dans un milieu. Et puis trop souvent, on s'apprête à les passer par-dessus bord par des façons d'être ou d'agir. Là. Je ne parle pas nécessairement de Témiscouata pour le lac. Là. Je vois aussi à Trois-Pistoles, j'ai vu passer aussi avec nombre d'années au niveau de certains élus dans le territoire agir, ou une population agir envers son monde, puis des années finalement à les écœurer pour faire autre chose. Puis c'est sûr que personne n'est irremplaçable, mais quand on prend en priorité la dimension humaine des gens qui occupent des postes pour servir les citoyens, ben je pense que en se le rappelant régulièrement, je pense que le citoyen est gagnant au bout du compte.
Ouais.
Et quand un milieu se déchire, je me souviens très bien d'une époque, M. Saint-Pierre, vous êtes assez longtemps en radio, quand on a eu à regarder une fusion de Notre-Dame-des-Neiges et la ville. Ça a été des moments assez houleux. Et puis, de ce que j'en ai compris par la suite, moi, quand M. Leblanc a été réélu, avec un message très clair de sa population de dire « on n'en veut pas de fusion », nous, on a arrêté tout le processus pour éviter justement que des briques nous arrivent par la tête par la suite, même si une fois, mettons, s'il y aurait une majorité X, Y, Z, 49% 51% majoritaire, si vous voulez, là, eh bien, il y a toujours quelque chose qui traîne par la suite, et ça vient briser, ça vient drainer par en arrière l'énergie d'un conseil de ville, et ça brise une énergie pour pouvoir aller de l'avant dans des dossiers,
oui.
Et c'est ça qui est de valeur dans une communauté, et je ne vise pas une semaine du lac ou Témiscouata sur le lac, c'est humain, c'est comme ça.
Ouais. Parlons du compte de taxes de 2019. Donc, les citoyens là, ont eu par la poste le compte de taxes 2019 cette semaine. Évidemment, on ne peut pas passer à côté.
C'est comme Noël à chaque année qui arrive. Les comptes de taxes arrivent, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Alors, les citoyens, tous sont égaux aux yeux de la loi. Donc, tous ont reçu un compte de taxes pour pouvoir continuer à offrir des services pour l'année 2019. Ce que je tiens à dire, c'est que les gens ont jusqu'au mois d'octobre pour les payer sans frais, c'est-à-dire s'ils vont par quatre versements, là, fin février, fin mai, fin août, fin octobre, ben, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, ça évite d'avoir une somme énorme d'un coup sec qui grève un budget pour les payer. Donc, on ajuste les paiements ou en quatre versements. Et les gens peuvent le faire soit en venant ici ou à l'hôtel de ville, des heures de bureau payées, ou encore souvent, ce qu'on préfère le plus, c'est par Internet, des virements électroniques. Maintenant, ça se fait très bien. Alors, c'est pour dire aux gens que tous l'ont reçu. Alors, on devra tous, les maires, les élus, comme les simples citoyens, de passer à la caisse.
Oui. Il y a aussi un sujet que vous voulez aborder, qui est le regroupement des offices municipaux d'habitation, l'OMH, en fait, là, Trois-Pistoles, Saint-Mathieu, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément. Ça, c'était rendu nécessaire?
Oui, ben c'était la Société d'habitation du Québec qui coiffe toutes les OMH de la province du Québec, avait donné un ultimatum à tous ces conseils d'administration. Là, vous savez, dans les Basques, il y en avait quatre conseils d'administration par rapport aux cinq OMH qui étaient installés, Trois-Pistoles, Saint-Clément, Saint-de-Dieu et Saint-Mathieu. Et chacun avait une ressource pour gérer ça, donc c'était des frais pour chacune des organisations. Et la Société d'habitation du Québec a donné une missive aux OMH de « si vous vous regroupez pas ensemble, selon vos règles, selon votre façon d'être, nous allons le faire pour vous ». Alors, c'est ce qui fait que les gens, il y a cinq ans passés, tous les conseils d'administration de la MRC des Basques se sont réunis, ont négocié, ont regardé certains éléments, et puis sont venus à une entente, et depuis le 1er janvier 2019, alors il n'y a qu'une seule office municipal d'habitation dans le territoire, et c'est géré par une ressource qui, dont son bureau est au centre d'achat ici, mais avec un point de service à Saint-Clément et avec à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, ce qui arrivait souvent à une certaine époque, c'est chacun des OMH dans chacun des territoires. Souvent, maintenant, il y avait un logement de libre et puis gérait le logement en fonction de si la personne venait de chez eux ou non. Ouais. Alors, le logement pour rester libre pendant 6 mois, 1 an, pas être occupé. Là, il y a un manque de revenus, ce moment-là. Et présentement, aujourd'hui, quelqu'un qui correspond aux règles au niveau de l'aide financière à être apportée pour occuper ces logements-là, eh bien, la personne qui va rencontrer la personne ressource qui gère ça, ben, peut offrir à ces gens-là d'habiter à Saint-Clément, Saint-de-Dieu, Saint-Mathieu, Trois-Pistoles. Il n'y a plus de chasse gardée dans chacun des territoires, mm-hmm. donc c'est ouvert à tout. Alors, ça maximise, ouais, l'occupation des locaux, donc un rendement accru pour cet organisme-là.
Okay.
Alors, il n'y a pas de personnel supplémentaire. Alors,
ouais.
C'est parfait. C'est une personne pour tout l'ensemble.
Okay.
Et non, 5 personnes.
Hey, cette semaine, avec la chronique de Sébastien Rioux, j'avais une question comme ça, pointe à la loupe, pointe à la loutre, parce qu'il y a des gens qui confondent, puis à un moment donné, on finit par venir mêler. Là. Mettons que dans un jeu questionnaire à 1 000 $, j'aurais répondu à la loupe, mais j'étais pas certain de mon coup à 100%. Mm-hmm. Vous avez un petit peu d'histoire là-dessus?
C'est ça, oui, c'est que pour situer les gens, là, c'est vraiment pointe à la loupe. Une loupe, là, qui en définition, là, c'est une lentille grossissante. Ou encore dans la navigation de personnes norniettes. Vous savez, le capitaine Haddock, dans les dessins animés, on voit qu'il regarde au loin à partir de son navire quand cesse les pirates s'en viennent ou quoi que ce soit. Eh bien, ou dans Astérix, là, quand ils sont sur le bateau, les pirates, ils ont des lorgnettes. Alors, ça, c'est la pointe à la loupe située entre la poissonnerie d'Yonne à l'ouest du pont de la rivière Trois-Pistoles jusqu'à quasiment à la côte qui mène à Saint-Éloi, mm-hmm. sur la route 132. Cet espace de terrain-là, là, géographique, c'est un échant creux terrestre, donc, mais c'est une pointe de terre qui s'avance dans le fleuve par rapport à côté où c'est plus en retrait comme Notre-Dame-des-Neiges, un creux, puis l'île Verte, vous savez, c'est plus en profondeur par rapport à cette pointe-là. Cette pointe-là, elle a eu un avantage très important, des années 1800, c'est que tout le trafic maritime qui venait d'Europe, alors que l'Angleterre avait pris possession des lieux, si vous voulez, de la province du Québec par la guerre, tout le trafic maritime par la voile, parce qu'il n'y avait pas de moteur, transitait par la rive sud, et non par la rive nord comme aujourd'hui, les bateaux étaient moins fort tonnage. Puis la rive sud était plus développée, occupée par l'être humain, que la côte nord qui était pratiquement pas occupée. Alors, il y avait des Amérindiens, mais pas beaucoup de Blancs. Alors, quand le bateau arrivait, comme ça se fait aujourd'hui avec les escumins, le bateau, c'est l'ancêtre des bateaux de pilote, des stations de pilotage. À Rivière-Trois-Pistoles, la Pointe-à-Loupe, vous avez même un bâtiment qui est construit en fer, en pierre, des champs, qui est encore présent, qu'on appelle anciennement la maison des pilotes, mais aujourd'hui, c'est la maison hantée.
Oui, 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 oui.
C'est ce qu'on appelle la maison hantée. Alors, c'est l'ancien poste de pilotage, ça.
Ah.
Alors, la Pointe-à-Loupe, là, cette pointe de terre-là s'avançait assez bien dans le fleuve, tellement que dans la MRC des Basques, c'est stratégique, ce coin-là, c'est qu'avec une lorgnette, les capitaines à l'époque pouvaient observer au loin jusqu'au bic, voir les bateaux qui montaient de Pointe-au-Père, parce qu'il y avait une station là aussi à Pointe-au-Père. Mmh. Alors, quand ils voyaient un voilier s'en venir à partir des îles du Bic, c'était la course contre la montre des pilotes disponibles avec leur chaloupe. Ils partaient à la rame de Rivière-Trois-Pistoles, si vous voulez, de Pointe-à-Loupe, et ramaient jusqu'au voilier. Le premier capitaine qui arrivait à bord du voilier en question, c'est lui qui prenait la charge du bateau pour monter jusqu'à Québec, Montréal.
Donc,
il se faisait payer. Il embarquait sa chaloupe à bord, puis il montait à Québec, Montréal. Puis des fois, s'il n'y avait pas de voyage de retour, bien, il redescendait avec sa chaloupe.
Incroyable.
Et ça, M. Saint-Pierre, c'est vraiment une époque là très, très importante de notre société, de notre histoire au Québec, ce coin-là. Là. Et je vais vous dire, en passant, vous avez fait de la navigation. Là. Tout ça a amené par l'Angleterre à mettre des balises sur le fleuve pour éviter les naufrages et tout par ces capitaines-là. C'est ce qu'on appelle la Trinity House. C'est vraiment l'organisation structurelle au niveau des navigateurs avec des signes, des balises sur l'eau pour pouvoir éviter des écueils et comprendre un langage universel. Et c'est à partir du Québec que ça s'était mis en place et ça a été transmis sur toute la planète entière par la suite. Tout ce qui navigue dans le monde entier part de ce principe-là. Ouais. Alors, la pointe à loupe, c'est vraiment la loupe et non la loutre, mais c'est vraiment à partir d'un passé historique très important qui s'est joué à Notre-Dame-des-Neiges pendant une cinquantaine d'années. Quoi.
Excellent professeur Rioux. Merci.
Bye-bye,
bonne journée. Non, mais vraiment, super, super intéressant.